C'était vendredi, après 5 semaines d'audience, après 10 heures de délibération, la Cour d'assises spéciale de Paris rendait son verdict dans le procès des attentats de Carcassonne et de Trèbes qui avaient fait 4 morts le 23 mars 2018. Des peines de 6 mois à 4 ans ferme ont été prononcées contre 7 membres de l'entourage de Radwan Lakhdim. Lakhdim, petit dealer, radicalisé, de 25 ans, dévoré par sa haine des homosexuels, des forces de l'ordre et des mécréants. Il avait semé la terreur et la mort en solitaire. Rémi Darcourt.
Le cercueil d'Arnaud Beltrame, 4e victime du terroriste Redouane Lakhdim, dans la cour des Invalides, 5 jours après l'attentat. 3 autres hommes, Jean Mazière, Christian Medves et Hervé Sosna, ont été tués eux aussi par le terroriste le 23 mars 2018. Ce jour-là, la première balle tirée par Redouane Lakhdim touche et blesse un jeune homme de 25 ans qui fume près d'un parking sur les hauteurs de Carcassonne, connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. Puis un autre tir atteint en pleine tête Jean Mazière et le tue. Ce viticulteur à la retraite de 61 ans marchait sur un sentier à proximité.
Pourquoi lui, à cet endroit, au mauvais moment, voilà, pourquoi Jean
Le terroriste se dirige ensuite vers le centre-ville, guette la sortie des parachutistes à la caserne La Périne, mais n'en croise aucun. Poursuit sa route vers l'avenue du Maréchal Leclerc, où il tire à 6 reprises sur des CRS en train de finir leur footing. Il en blesse un. La suite se déroule au Super U de Trèbes. À peine entré dans l'hypermarché, le terroriste tire à bout portant sur un boucher de 50 ans, Christian Medves. Les clients s'enfuient, se cachent. Hervé Sosna, 65 ans, est sur la trajectoire du tueur. Il meurt d'une balle en pleine tête. Retranché dans la salle des coffres, le terroriste prend en otage Julie qui s'y cachait et lui raconte son périple.
C'est à ce moment-là qu'il me dit qu'il a tué 2 personnes sur un parking, tiré sur des policiers ou des militaires en ville et qu'il a abattu 2 clients là dans le magasin.
À 11h21, les gendarmes interviennent. Arnaud Beltrame se propose en otage à la place de Julie, qui est libérée à 11h32. Le lieutenant-colonel de gendarmerie reste 2h15 seul avec le terroriste pendant que les renforts affluent. Quand l'assaut est donné, Redouane Lakhdim est abattu. Les hommes du GIGN découvrent Arnaud Beltrame, la gorge tranchée et le corps portant des marques de balles. Il meurt la nuit suivante.
Voilà donc pour le retour, les faits de cette journée tragique dominique, le 23 mars 2018. Mmh. Bonjour, Maître Montfort, Mathieu Montfort. Bonjour, maître sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes avocat de Marielle Beltrame, c'est la veuve d'Arnaud Beltrame. Avant de vous attendre et que vous répondiez à nos questions avec Dominique, je salue et j'accueille également Nicole Beltrame. Merci d'être avec nous. Vous êtes la mère d'Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de gendarmerie. Il avait donc pris la place de Julie lors de cette attaque. Comment allez-vous après ce verdict et 6 ans après cette attaque terroriste qui a coûté la vie à votre fils notamment, pas seulement, mais notamment.
Écoutez, c'est très compliqué parce que c'est 31 mois, 6 ans d'attente et revenir comme ça en boomerang, tout en pleine face, c'est quand même très compliqué. Et aussi de voir la légèreté avec laquelle, bon, je veux dire, le jugement a été rendu. Mais je n'entrerai pas en polémique. Simplement, ce qui me fait très plaisir, c'était la plaidoirie de Maître Mondrial avec toute son équipe qui a fait valoir effectivement la mort d'Arnaud, qui n'était pas un sacrifice, qu'il a lutté avec les preuves à l'appui. Et donc, effectivement, ça nous conforte, nous, moi et les garçons, c'est-à-dire Damien et Cédric, dans ce que l'on a toujours su et cru. Et il faut cesser de parler de sacrifice par rapport à Arnaud. Voilà.
Madame Beltrame, l'association de malfaiteurs terroristes, ça n'a pas été retenu contre tous les accusés. Hein. 4 sur 5 ont été renvoyés, ont été acquittés pour ce crime de association de malfaiteurs terroristes. Comment est-ce que vous avez réagi? Ce ne sont pas des terroristes.
Je réagis par ce qui se passe actuellement en France. Je veux dire que si les gens mangent des couteaux, ça doit être pour couper du pain. Voilà. Vous savez, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Ce qui est le plus important quand on vous écoute aujourd'hui, c'est que justice est passée, mais que justice a été rendue. Et le mot, effectivement, qui était souvent employé, c'était sacrifice pour l'action de votre fils. Et les mots, justes, selon vous, ont été utilisés désormais pour qualifier ce qui s'était passé à l'intérieur de ce supermarché.
Voilà, et c'est ça qui me fait énormément de douceur au cœur, parce que c'est quand même très dur quand c'est, je veux dire, galvaudé un peu partout. Maintenant, Il est temps, effectivement, de reconnaître le geste d'Arnaud, même s'il n'est pas rentré dans l'ordre juste des choses par rapport au protocole, si je puis dire. Mais peut-être aussi que ça fait peur à certaines personnes qu'à sa place, il ne l'aurait pas fait. Et c'est toujours facile d'aller critiquer. Donc maintenant, j'ai envie de dire une fois de plus, ça suffit. Bon, prenons plutôt note de son courage. Et puis, bon, remercions aussi la justice. La justice est passée, comme on dit toujours. Et puis maintenant, faisons en sorte, effectivement, de se protéger, qu'il n'y ait pas d'autres procès, pas d'autres victimes. Je pense aussi aux toutes les victimes de Trèbes et d'ailleurs, et de toutes les victimes de terrorisme. Et il est temps, effectivement, de réagir, ce qui n'est pas tellement fait, effectivement, en France actuellement.
On va préciser, Mme Beltrame, quand vous dites le protocole, en parlant de votre fils, d'Arnaud, c'est que le protocole, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour un officier de ne pas se mettre à la place de l'otage, puisque ce n'est pas le rôle de l'officier. Il n'en reste pas moins que c'est un acte héroïque. Qu'est-ce que vous pensez de la... Est-ce que vous avez assisté à ce moment-là, au moment où le président des assises fait la morale aux accusés? Vous avez assisté à ce moment?
Non, vous savez, c'était la grève. Alors, je n'ai pas pu me rendre, effectivement, à la fin du procès, parce que j'ai subi la grève. J'appelle de Vannes, je suis en Bretagne. Mmh. Et voilà, je déplore une fois de plus que je n'ai pas pu me rendre là-bas.
Mais est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative de le faire?
De faire la morale,
en plus de prononcer le droit, mais...
En ce qui concerne le protocole, j'ai envie de dire, moi, si je vois quelqu'un se noyer, je vais pas dire, attendez, excusez-moi, j'ai cherché ma bouée. C'est un peu ça,
évidemment,
finalement.
Évidemment, on est bien d'accord.
Voilà.
Mais
je dirais toujours la même chose. Il faut de la spontanéité, de l'humanité. Et puis, bon, bah, aller de l'avant. Et puis, soyons positifs.
Est-ce que le boulot, quand même, du président de la Cour d'assises, c'est de faire la morale à des jeunes comme ça ou de leur dire, ce que vous avez fait, c'est gravissime?
Bah, c'est la sanction. C'est la morale, c'est tout. Mmh, mais si d'accord. C'est pour aller en prison pour se radicaliser, c'est pas la peine non plus. Donc, bon, voilà, il y a tellement de choses à dire. C'est pas le moment d'en parler, mais effectivement, continuons de travailler tous ensemble.
Vous parlez de la prison. Justement, aucun d'entre eux n'a été incarcéré.
Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, si vous voulez. Ça s'est passé il y a 6 ans. Donc c'est ça, je ne critique pas la lenteur de la justice qui s'est permis effectivement de faire toutes les investigations et d'arriver à ce résultat. Mais en même temps, bon, tout ça c'est compliqué, les gens évoluent peut-être qu'ils sont culpabilisés, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Hein.
Merci beaucoup Nicole Beltrame d'avoir été dans l'affaire suivante aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir...
Très bonne journée.
Merci à vous aussi.
Bon courage à vous.
Maître Montfort, vous dites en substance, quelles que soient les peines qui sont prononcées ou pas, appliquer le droit, c'est aussi lutter contre le terrorisme. C'est l'un des messages, alors qu'effectivement, ce que disait Dominique est juste, c'est-à-dire qu'il y avait des accusés, aucun n'est retourné en prison à l'issue de ces procès.
Le plus important, ça reste le droit. Le droit, l'application des règles de droit... par une juridiction qui est spécialement composée de magistrats professionnels. Et le droit face au terrorisme, c'est nos valeurs face au terrorisme. Et quelque part, accueillir, se délibérer indépendamment des peines qui ont été prononcées, ça reste le plus important. Et c'est un signe, en acceptant de se délibérer, même s'il y a encore un délai pour l'appel, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais accepter un délibéré, accepter une décision de justice, c'est faire confiance à notre droit et aux valeurs de ce droit.
Ce qui est compliqué à comprendre, c'est cette notion de complicité, d'association de malfaiteurs terroristes. C'est quelqu'un qui a acheté un couteau, quelqu'un qui a fait dealer une personne dont la radicalisation était connue. C'est, en gros, tout le monde savait, mais finalement, personne n'est condamné véritablement aujourd'hui. Comment vous, le représentant du droit français, vous analysez ça et vous l'expliquez? Cette espèce de difficulté à condamner la complicité?
Il n'y a pas de difficulté à condamner la complicité. Ce qu'il faut prendre en considération dans l'affaire qui nous occupait, c'est qu'il faut regarder, un, l'auteur de l'attentat. Après, on descend par cercle, si vous voulez. On regarde les complices, ceux qui ont fourni, en connaissance de cause, des éléments qui ont permis la réalisation de l'infraction et qui ont participé.
Mais là, il y a une zone grise. C'est-à-dire qu'on donne une arme à quelqu'un dont on sait qu'il est radicalisé, mais on se dit il ne va pas utiliser cette arme parce qu'il est radicalisé.
Il n'y a pas de zone grise. On descend au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous avez l'auteur principal, vous avez les complices. Au-delà de la complicité, juridiquement parlant, il y a l'association de malfaiteurs terroristes, qui consiste en quoi? Qui consiste dans les actes préparatoires à ce qui va être l'attentat. Mais encore faut-il, au moment où on réalise cet acte préparatoire, qu'on ait conscience de l'entreprise terroriste qui est derrière. On ne peut pas confier à la justice le rôle de sanctionner la simple connaissance d'une radicalisation, par exemple.
Mais maître, on a dans parmi toutes les personnes qui ont été jugées, donc Samir Mana, il a 28 ans, pour avoir accompagné Radouane Lagdim à acheter le couteau, Donc, Ronald en parlait tout de suite. Ensuite, il y a celui qui n'a pas dénoncé l'assaillant. Ensuite, il y a le beau-frère de Radwan Lakdim qui a nettoyé l'appartement pendant que ce dernier commettait l'attentat. Ensuite, il y a celui qui a discuté des modalités du djihad avec l'assaillant sur Internet. Donc, ça fait quand même... Bon, après, il y a la drogue, celui qui fournissait de la drogue. Là, ça fait quand même des éléments qui laissent penser, quand on va chercher sur Internet comment on revendique un attentat, on est quand même un complice plus, non ?
On n'est ni un complice plus, ni un complice moins, ni un complice tout court. Il faut bien comprendre que pour être condamné pour une association de malfaiteurs terroristes, il faut un peu plus que la connaissance d'une radicalisation. Il faut un peu plus qu'accompagner quelqu'un dans un commerce pour acheter une arme. Il faut un peu plus qu'être un trafiquant de stupéfiants. Il faut montrer qu'il y a des interactions, mais au-delà de ça, qu'il y a une interaction, et c'est là où j'ai envie de reprendre votre terme, une interaction plus. Il faut une adhésion avec un acte matériel. Pousser, avoir connaissance de certains éléments, c'est pas suffisant. On doit intervenir avant, mais il y a le droit. Et le droit, entre guillemets, protège aussi des intrusions qui seraient trop en amont pour une instruction judiciaire ou pour d'autres investigations.
Pardon, on se disait en préparant l'émission là, avec Ronald, vous êtes plutôt un avocat de la défense, plutôt quelqu'un qui bataille du côté de la défense. Quand vous vous retrouvez sur le banc des parties civiles, comment ça se passe ? On change de logiciel, on change de façon de s'exprimer.
Non.
On parle de ceux qui souffrent, on parle plus des auteurs.
Non, je pense que.
Comment ça se passe?
Quand on est avocat de la défense ou quand on est avocat, on est avocat. Après, moi, je suis avocat partie civile dans ce procès-là, mais j'ai une certaine lucidité qui vient des textes de droit qu'on applique. Il y a des raisonnements à avoir, il y a des éléments dans le dossier qui montrent des zones d'ombre, qui ont eu un éclairage lors de ces cinq semaines, qui montrent des insuffisances dans le cadre de ce dossier, qui n'ont pas permis d'établir les liens qui auraient pu peut-être de condamner. On les a pas. Et quand on les a pas, on ne condamne pas. Ça, c'est rassurant. Et pour un avocat, le plus important, malgré tout, c'est le droit. Qu'on soit en défense ou qu'on soit du côté des victimes. Mmh. Et le plus important dans notre rôle, c'est d'expliquer, que ce soit à l'accusé qu'on défend ou à la partie civile qu'on représente, les tenants et les aboutissants du procès avec les aléas que ça peut recouvrer.
Malheureusement, l'actualité, Dominique le sait mieux que quiconque, nous fait souvent évoquer, traiter, suivre des procès où le contexte terroriste, la menace terroriste et parfois les passages à l'acte. Quel bilan faites-vous ? Comment placez-vous ce procès dans ce contexte-là ? Sachant qu'on a beaucoup parlé de l'acte héroïque d'Arnaud Beltrame, mais on a aussi parfois oublié ce qu'était le parcours meurtrier de son assassin. C'est le premier crime djihadiste homophobe, puisqu'il va chercher, il va tuer un homosexuel, c'est ce qu'il veut faire. Puis après, il s'en prend à des CRS qui courent. On est dans un parcours qui peut ressembler de façon différente, mais à celui de Mohamed Merah. On a le sentiment que on n'en parle pas forcément comme si c'était aussi grave ou aussi dramatique que le périple meurtrier sanguinaire de Mohamed Merah. Comment vous replacez ce procès et cet attentat dans cette galaxie djihadiste et dans ce contexte?
Je pense qu'il faut faire attention, quand on a différents attentats, des liens qu'on peut faire entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des individus qui ont pu se radicaliser, mais est-ce qu'ils se sont radicalisés par les mêmes moyens, dans les mêmes lieux ? Est-ce qu'ils ont eu accès aux mêmes armes, aux mêmes réseaux ? C'est ça la question essentielle. Et la difficulté, c'est que quand on a un attentat, on essaie de le rattacher à un autre attentat pour pouvoir éclairer le passage à l'acte et les circonstances de ce passage à l'acte. Là, on est dans une situation qui, à mes yeux, moi, est différente, nettement différente de l'affaire Merah. Moi, je ne connais pas le dossier, je n'étais pas constitué pour l'affaire Merah, mais il me semble qu'on a quand même une personnalité qui est différente et les semaines au procès l'ont éclairé.
Justice est passée. C'était un procès utile.
Un procès toujours utile. Un procès toujours utile, que ce soit du côté des accusés qui ont pu être acquittés pour l'association de malfaiteurs terroristes, que ce soit du côté des parties civiles, parce que c'est une étape pour le deuil, c'est une étape pour les souffrances, c'est une étape pour tout le monde. Et le plus important, c'est que la justice, comme vous l'avez dit, est passée, mais j'ai envie de dire, la justice reste. Et c'est très important pour le droit.
Merci beaucoup, Maître Montfort, d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes. Merci beaucoup.